Certains mots ont donné naissance à une quantité de dictons populaires. C'est le cas du vin, à qui on prête beaucoup de vertus, mais dont il faut aussi se méfier. S'il est vrai que un verre de vin est une chaude fourrure, le vin est bon, qui en prend pas raison? Car trop boire noie la mémoire. Il n'est donc pas étonnant que le maître de sagesse parle aussi sur ce sujet. Je commence à lire le chapitre 20 du livre des Proverbes. Le vin est un moqueur et une boisson forte est turbulente. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Proverbe 21, verset 1. C'est la première fois, mais non la dernière, qu'il est question de l'alcool dans ce livre. Ici, le vin et les boissons fortes sont personnifiés. Celui qui se livre à un usage modéré d'alcool devient comme l'insolent qui se moque de Dieu et de sa loi, et qui finit aussi par ne plus être maître ni de ses paroles, ni de ses actions. Plus loin, il est précisé que l'ivrognerie engendre la pauvreté, Proverbe 23, les versets 20 et 21. Les querelles, Proverbe 23, versets 29 et 30, et l'injustice, Proverbe 31, les versets 4 et 5. Cependant, et assez curieusement, plusieurs passages des Écritures décrivent le vin en termes élogieux. Dans le psaume 104, on lit « Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. » Psaume 104, verset 15. D'autres textes parlent de l'effet sédatif de l'alcool. Par exemple, au chapitre 31, on lit « Que l'on donne plutôt des boissons enivrantes à celui qui va périr et du vin à qui a le cœur malheureux. » Proverbe 31, verset 6. Mais dans son ensemble, la parole de Dieu met plutôt le lecteur en garde contre les excès d'alcool. Plus loin, au chapitre 23, un proverbe dit « Ne couvre pas tes regards, le vin vermeil quand il brille. De son éclat dans la coupe, il descend si aisément. » Proverbe 23, verset 31. Le vin a causé un gros problème au patriarche Lot, neveu d'Abraham et de Noé. Les deux filles de Lot ont enivré leur père, puis elles ont eu des relations sexuelles avec lui alors qu'il est dans le brouillard. Genèse 19, les versets 30 à 38, afin d'avoir un fils de lui pour que leur race ne disparaisse pas. Quant à Noé, il s'est enivré tout seul, mais une fois dans un état second. Il s'est mis tout nu dans sa tente. Le père de Canaan, qui s'appelle Cham et qui est l'un de ses trois fils, a vu son père intoxiqué et s'est moqué de lui. Mais cette action a valu à Canaan d'être maudit par son grand-père. Genèse 9, versets 20 à 25. Aujourd'hui, l'alcoolisme est un sérieux problème presque partout dans le monde et en France en particulier. On pointe du doigt les drogués, mais leur nombre est insignifiant par rapport à ceux qui abusent des boissons fortes et qui deviennent violents ou dangereux sur la route, par exemple. Il est vrai que ces dernières années, les choses se sont améliorées grâce à des campagnes de sensibilisation au problème de l'alcool au volant avec des slogans du genre « boire ou conduire, il faut choisir ». Mais malgré tout, l'ivrognerie reste un fléau qui a détruit plus de foyers et tué plus de gens que tous les autres vices combinés. Dans mon village natal, un parent éloigné qui était déjà à la retraite a un jour fait une bringue avec son meilleur ami, lui aussi un homme âgé. Malheureusement, ce dernier avait le vin méchant, comme on dit, et, dans un accès de folie furieuse, il a tué notre parent. Cette affaire a été jugée, mais si je me souviens bien, l'assassin n'a eu que de la prison avec sursis, parce qu'au moment du drame, il n'était pas lui-même, mais sous le contrôle de l'alcool. En d'autres mots, son ivresse a excusé son meurtre. Aux États-Unis, quand la cocaïne a commencé à se propager, les grands producteurs d'alcool ont contribué à sa répression. Pas par générosité touchante, mais parce qu'ils craignaient cette concurrence déloyale et préféraient bien sûr qu'un jeune devienne accroché à l'alcool plutôt qu'à la drogue. Je continue avec les quatre proverbes de ce chapitre qui parlent du rôle du roi. La colère du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'excite se nuit à lui-même. Lorsque le roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il affermit son trône. Proverbe 20, verset 2, 8, verset 26 et 28. La bonté et la fidélité au droit doivent être les caractéristiques premières d'un chef d'État, car elles font partie des traits de la sagesse. Dans le chapitre 3, on a lu « Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. » Proverbe 3, les versets 3 et 4. Et dans un chapitre précédent, Salomon dit « Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. » Proverbe 16, verset 12. Le trône de la justice est l'endroit à partir duquel sont proclamées des sentences qui défendent le droit. Un monarque juste est redoutable envers les impies. Sa seule présence inspire la terreur aux artisans du mal et la confiance aux bonnes gens. Devant Dieu, le roi d'Israël a pour devoir d'utiliser des moyens musclés afin de punir les malfaiteurs et ainsi extirper la méchanceté de son royaume. C'est pour cela que son action est comparée à la roue qui, à cette époque, sert à séparer le grain de son enveloppe, c'est-à-dire la balle. Ésaïe 28, les versets 27 et 28. Tous les dirigeants du monde feraient bien de s'inspirer des proverbes, car en les mettant en pratique, ils assoiraient leur pouvoir et deviendraient une source de bénédiction pour le peuple qu'ils gouvernent. Je continue le texte. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. Proverbe 20, verset 3. On évite les querelles en oubliant les offenses. Proverbe 12, verset 16, 17, verset 14. Et en ne fréquentant pas les moqueurs. Proverbe 22, verset 10. Les fortes têtes arrogantes, par contre, ne savent pas se maîtriser. Ce qu'il fait, qu'il fonce tête baissée dans une dispute sans tenir compte qu'il risque d'y laisser des prunes. Celui qui a placé sa foi en Dieu doit manifester un comportement bienveillant envers tous et en toutes circonstances. Aux Romains et aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Romains 12, verset 19. « Que votre douceur raisonnable soit connu de tous les hommes. » Philippiens 4, verset 5. Je continue le texte. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Proverbe 20, verset 4. Au chapitre 10, le maître de sagesse a déjà dit « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Proverbe 10, verset 5. En Israël, qui jouit d'un climat favorable aux cultures. L'automne, hiver est l'époque des pluies et des semailles, et donc le moment de retrousser les manches. Mais bien sûr, le fainéant trouve toujours une excuse pour fuir le travail. Ça me fait penser à l'individu dont le toit fuyait. Eh bien, il ne l'a jamais réparé parce qu'il ne voulait pas travailler sous la pluie. Et quand il fait beau, il n'y a pas de fuite. Je continue. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Proverbe 20, verset 5. Un bon conseiller est intelligent et sage, ce qui lui permet de pouvoir aider quelqu'un en difficulté, à démêler et voir clair dans ses pensées. Intention, priorité et mobile les plus secrets. Je continue. Beaucoup font état de leur bonté, mais où trouver un homme loyal ? Proverbe 20, verset 6. Il est facile de se jeter des fleurs, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ici-bas, un véritable ami sur lequel on peut vraiment compter dans les coups durs est une ressource très précieuse. Je continue. Le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Proverbe 20, verset 7. Un certain Pierre Delaunay a développé cette pensée. Il a dit « Quoi qu'il arrive, demeure ferme dans la piété et la crainte respectueuse de Dieu, car le juste s'en trouvera bien. Et après lui, le Seigneur étendra sa bénédiction à sa postérité. » Et le prophète Ésaïe écrit « Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du prix de ses actions. » Ésaïe 3, verset 10. Je continue à lire dans le chapitre 20. « Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute. » Proverbe 20, verset 9. « Personne ne peut dire cela parce que nous sommes tous habités par le mal qui se manifeste dans nos mauvais pensants, contraires à la loi morale de Dieu. » Je rappelle ce passage du livre de Job qui dit « Comment un homme humain pourrait être pur ? C'est un être détestable, un homme corrompu qui commet l'injustice comme il boirait de l'eau. » Job 15, versets 14 à 16. Le jugement que prononcent les Écritures sur la nature humaine est cinglant et sans appel. On a coutume d'appeler un enfant innocent, mais il ne l'est absolument pas. C'est un gros égoïste qui ramène tout à lui. Il fait des caprices et manipule ses parents et frères et sœurs afin d'obtenir ce qu'il veut, sans aucun égard pour les autres. Il est tout aussi dégravé qu'un adulte. Jean-Jacques Rousseau a écrit que la société pervertit des personnes. Mais c'est tout le contraire. Nous naissons dégénérés avec le désir de faire ce qui est mal, et pour cette raison, Jésus a dit à un homme, pourtant très pieux, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 3. Chacun de nous a besoin de recevoir le pardon de ses fautes et d'être revêtu de la justice du Christ. Il n'empêche que, selon l'enseignement des textes sacrés en général et des proverbes en particulier, l'intégrité personnelle et la bonté envers les autres ont la valeur devant Dieu. Ces vertus doivent donc établir une distinction entre les vrais croyants et les autres. Je continue le texte avec deux proverbes de ce chapitre qui concernent les transactions commerciales. Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent des mesures différentes, seuls l'un et l'autre, en horreur à l'Éternel. Il a en horreur des poids truqués et les balances faussées lui déplaisent. Proverbe 20, verset 10, 23. Comparez Proverbe 11, 1 et 16, 11. Lévitique 19, verset 36, Deutéronome 25, les versets 13 à 16. Comme je l'ai déjà dit, dans l'Israël ancien, les commerçants indélicats possèdent deux jeux de poids et de capacité. Selon qui achète, ou un grossiste, ou vende à un client, ils trompent l'un et l'autre. Je continue. Le jeune enfant manifeste qu'il est, par ses actes, on voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. Proverbe 20, les versets 11 et 12. Bien que le caractère de l'enfant ne soit pas encore forgé, on peut déjà deviner l'adulte qui sera. C'est par l'observation, en utilisant ses sens, les oreilles et les yeux en particulier, qu'on se rende compte si quelqu'un est vrai, si ses actions sont cohérentes avec ce qu'il laisse paraître de lui-même. Nous naissons tous avec un sens moral et le désir de comprendre pourquoi nous sommes ici-bas. Je suis responsable de chercher l'explication de ma présence sur terre, d'où je viens et où je vais aller après la mort. Les réponses à ces questions sont écrites noir sur blanc dans les Écritures, à moi de les consulter. Je continue de lire le chapitre 20. « N'aime pas trop le sommeil, pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. » Proverbe 20, le verset 13. Ici encore, le maître s'adresse aux paresseux. Proverbe 6, versets 9 à 11, 10, 4 et 5, 19, 15, 21, verset 25. Mais le Nouveau Testament aussi, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 10 à 13. Je continue le texte. L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire. » Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Proverbe 20, verset 14. Une fois, un ami marocain nous invite chez lui dans son pays, et bien sûr, nous faisons les souks ensemble. Il marchande à notre place, car il sait bien s'y prendre. Pour chaque babiole, il fait remarquer les défauts au vendeur qui doit baisser le prix. Puis, une fois l'objet acheté, il nous dit en douce « Là, on a fait une superbe affaire. C'est très humain d'agir ainsi. » Je continue. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Proverbe 20, verset 15, Proverbe 3, verset 14 et Proverbe 8, verset 11. Notre sens des valeurs est inversé. On juge quelqu'un en fonction de ses possessions matérielles et non pas selon sa sagacité, sa capacité à dire la bonne parole au bon moment. Je continue. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Proverbe 20, verset 16. Se porter garant pour un ami n'est déjà pas très judicieux. Mais alors pour un inconnu, c'est franchement de la folie. Voilà pourquoi le juge se tourne vers le créancier et d'un ton sec l'autorise à s'emparer des possessions même les plus nécessaires du débiteur. Comparez Proverbe 6, versets 1 à 5, 15, 15, 17, 18, 27, 13. Celui qui veut aider quelqu'un dans le besoin doit bien réfléchir à ce que son geste risque de lui coûter. Je continue le texte. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Proverbe 20, verset 17, comparé. Proverbe 9, verset 17. Ce proverbe est similaire au dicton « bien mal acquis ne profite jamais ». L'auteur contraste la satisfaction immédiate d'une action moralement mauvaise à ses conséquences à long terme, dues au remords, au jugement des hommes et de Dieu. Je continue. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Proverbe 20, verset 18. Une réflexion sérieuse et la recherche de conseils avisés doit précéder une prise de décision importante. Proverbe 11, verset 14, 15, verset 22. Et faire la guerre en est une qui est particulièrement grave. Luc 14, versets 28 à 32. Je continue. Celui qui va colportant des racontars trahit des secrets. N'est donc pas de relation avec un bavard. Proverbe 20, verset 19. En d'autres mots, ne fréquentez pas celui qui vous flatte par devant et vous casse du sucre sur le dos par derrière. Proverbe 11, 13, 16, 28, 18, 8 et 26, 20. Je continue. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra en pleine ténèbre. Proverbe 20, verset 20. En d'autres mots, il mourra. Selon les livres de l'Exode 21, 17, du Lévitique 20, 9 et du Deutéronome 27, 16, celui qui maudit ses parents est puni de mort. Si vous n'appréciez pas vos parents, « ne dites rien. Quand Noé s'est saoulé, son fils Cham s'est moqué de lui alors qu'il aurait dû faire celui qui n'a rien vu. » Je continue. « Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise trop rapidement. » Proverbe 20, verset 21. C'est le cas d'un fils dénaturé qui, trouvant que l'héritage se fait trop longtemps attendre, dépossède ses parents par ruse ou même par violence. Proverbe 19, verset 26, 28, verset 24. Celui qui commet un acte aussi ignoble ne l'emportera pas au paradis, comme on dit, parce que bien mal acquis ne profite jamais. Je continue. Ne dis pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe 20, verset 22. Comparez Proverbe 24, verset 29 et 25, verset 21. Rétribuer le mal est une prérogative divine. Deutéronome 32, verset 35, Psaume 5, les versets 10 et 11, et Romains 12, verset 19. Je continue plus loin. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ? Proverbe 20, verset 24. Comparez Proverbe 16, les versets 1, 9 et 19, verset 21. Non seulement je n'ai aucune prise ferme sur l'avenir, mais dans le présent, ma liberté est toute relative. Mes conditions et mes circonstances sont l'œuvre de Dieu. Il est donc exact de dire que les pas de l'homme sont tracés par l'Éternel. Le sage invoque Dieu à chaque tournant de vie et croisement de route, et il s'en remet à lui dans toutes ses difficultés. C'était la démarche quotidienne de Moïse qui devait porter le peuple hébreu sur ses épaules. Je continue de lire le chapitre 20. Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Proverbe 20, verset 25. Ce principe est tiré du livre du Deutéronome, chapitre 23, les versets 22 à 24. Salomon le répète dans l'Ecclésiaste où il dit « Il vaut mieux de ne pas faire de vœux qu'en faire et de ne pas s'en acquitter. » Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Dieu n'apprécie pas nos élans religieux sentimentaux. Il veut une décision bien réfléchie et ferme. Je continue plus loin. La lampe de l'Éternel est l'esprit de l'homme qui sonde les profondeurs de l'être. Proverbe 20, verset 27. Dieu a donné à l'homme de son esprit, et c'est ce qui le différencie des animaux. Dans Job, Élihu dit « En l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Job 32, verset 8. L'esprit sert de lampe, car c'est grâce à elle que je peux pénétrer jusqu'au tréfonds de mon être, prendre conscience de moi-même et évaluer ma conduite. Cette lumière morale illumine les recoins sombres de mon cœur. Jésus a raconté une parabole où il est justement question de lampe. Je la cite. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leur lampe, des flacons contenant de l'huile. Matthieu 25, les versets 1 à 4. L'huile représente le Saint-Esprit. Il est la lumière que l'Éternel a donnée aux croyants, qui leur permet de discerner la vérité de l'erreur et le bien du mal. Pour cette raison, celui qui ne possède pas le Saint-Esprit est encore dans les ténèbres et donc incapable de comprendre correctement les Écritures. Je continue plus loin. La fierté des jeunes gens, c'est leur force, mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Proverbe 20, verset 29, comparé Proverbe 16, verset 31. Dans la culture juive, les anciens juifs d'une réputation de sagesse qui se reconnaissent aux cheveux blancs, tandis que les jeunes ont pour ornement leur apparence, leur vigueur et la bonne santé, à chacun d'agir en fonction de son âge. Pour les sports extrêmes ou de haute voltige, place aux jeunes. Et pour un bon conseil, je consulte quelqu'un qui a l'expérience de la vie. Je finis de lire le chapitre 20. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups qu'on le reçoit purifient l'être intérieur. Proverbe 20, verset 30. Lorsque les avertissements et les remontrances ne suffisent pas à corriger une mauvaise conduite. Il faut changer son fusil d'épaule et appliquer aux grands maux les grands remèdes. Le but des châtiments corporels est de redresser un comportement tordu et de rectifier les mauvaises inclinations du cœur. On a banni les coups de trique à l'école et on les interdit même à la maison. Mais qu'avons-nous à leur place ? Une délinquance en constante augmentation, pour une belle réussite, c'en est une.